Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. À la une, la crainte d'une troisième vague épidémique en France, ce qu'envisagent les dernières projections de l'Institut Pasteur. Pour l'heure, le gouvernement répond par des tours de vis localisés. Nice et Dunkerque devraient faire école. Conférence de Jean Castex ce soir à 18h. Invité d'Europe Midi, l'épidémiologiste de l'Inserm, Dominique Costagliola. Dans le journal, le début de la vaccination chez les généralistes, les dérives sectaires favorisées par le Covid, la durée de vie des plus vieux réacteurs nucléaires français prolongée de 10 ans, un deuxième Français détenu en Iran et un nouveau cas positif de Covid dans le 15 de France qui menace sérieusement le France-Écosse de dimanche.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nice, Dunkerque et demain peut-être d'autres métropoles et départements. L'exécutif fait maintenant le pari de tours de vis localisés pour éviter un reconfinement national. Jean Castex reprendra la parole ce soir à 18h. Mais le contexte, c'est une situation sanitaire qui se dégrade chaque jour. Plus de 30 000 nouveaux cas hier. Et une dernière étude de l'Institut Pasteur qui prévoit un rebond des hospitalisations au-dessus du pic de la première vague, Anne Le Gall.
Oui, l'ensemble des hôpitaux français enregistre un peu plus de 1300 entrées par jour actuellement. Ça remonte depuis une semaine. Et selon les projections de l'Institut Pasteur, la situation risque de se compliquer très vite avec le variant britannique plus contagieux. Deux hypothèses. Si on estime qu'il est 50% plus contagieux, en mai, le pic des hospitalisations sera comparable à celui de novembre 2020. Avec l'hypothèse d'un variant 60% plus contagieux, on serait même bien au-delà de ce pic. Selon l'Institut Pasteur, on pourrait alors frôler les 4500 hospitalisations par jour. Et cela malgré la vaccination. Car même si au 1er avril, on imagine que les trois quarts des plus de 75 ans sont vaccinés, le nombre d'hospitalisations serait alors 28% plus faible. Mais ça ne suffirait pas à contrer l'effet des variants sur les transmissions. Et donc, on dépasserait quand même le pic d'admission de la première vague. Alors existe-t-il réellement un trou de souris pour éviter le confinement ? Parmi tous les scénarios envisagés, très peu malheureusement permettent de l'envisager, estime Simon Cauchemez qui dirige ses modélisations à l'Institut Pasteur. Mais le côté très hétérogène de l'épidémie sur le territoire rajoute des éléments d'incertitude pour la suite, car ces projections sont faites au niveau national.
Anne Le Gall, et on reviendra sur la situation sanitaire dans une dizaine de minutes avec notre invité l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Aujourd'hui, la vaccination débute chez les médecins de ville. Jean-Luc Bougeon, vous êtes invité à un premier rendez-vous chez un généraliste de Lyon.
Oui, dans le cabinet du docteur Florence Lapica dans le 8e arrondissement, qui a fait 7 injections ce matin, 3, elle en prévoit 3 cet après-midi, et elle aura utilisé tout le contenu du flacon AstraZeneca prévu pour 10 doses. Elle n'en a pas plus pour l'instant. Lionel était un de ses premiers patients ce matin, 62 ans, souffrant de diabète et d'hypertension, donc dans la cible visée par ce vaccin. Et hop, c'est parti pour la piqûre.
Ça va ?
Oui.
Ouais ?
Pas de problème.
Pas de problème ? C'est supportable ?
Oui, oui, ça va.
Allez, eh ben c'est parfait. C'est tout bon.
Voilà, Lionel est un grand gaillard bien costaud. Pourtant, le docteur Lapica a dû tout de même le rassurer avant l'injection.
Est-ce que vous avez des questions ?
C'est sûr,
il y a... C'est pas un doute, mais simplement une efficacité qui est autour de 60-70%, c'est-à-dire qu'il reste un petit pourcentage quand même de risque de l'attraper encore.
Il avait besoin d'explications et d'être rassuré, et c'est normal. Je crois que les patients ont besoin d'informations et d'informations claires. Effectivement, il faut le dire aux patients, ça ne protège pas à 100%. Et il y a des petits risques quand même d'avoir des courbatures de la fièvre. Donc c'est pareil, il faut prévenir les patients.
Lionel, qui a fini par être convaincu de l'utilité du vaccin, surtout dans sa situation.
Il y en a beaucoup, qui existent, mais bon, faut le faire. Là, je suis malade à risque, du diabète, j'ai fait un AVC, il y a 7-8 ans, ça, et puis voilà.
Donc, faut pas rigoler avec le Covid.
Ah bah non, faut faire attention.
Voilà, et rendez-vous a été pris pour la seconde injection, prévue dans 9 semaines.
Jean-Luc Bougeon, direct de Lyon pour Europe 1. Une première victoire pour les restaurateurs en conflit avec leur assureur, pour les pertes liées au Covid. AXA vient d'être condamné à indemniser un restaurateur marseillais. Décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Première juridiction d'appel à statuer au fond sur ce type de litige. On va y revenir dans le journal de 13h. La crise sanitaire favorise les dérives sectaires, constat dressé dans un nouveau rapport officiel. La France compte environ 500 sectes, beaucoup de petits groupes, mais le phénomène touche 140 000 personnes. Et 40% de ces mouvements sont inspirés par les questions de santé ou de bien-être. Les gourous qui prônent des jeûnes extrême où les pseudothérapies ont vu leur audience décuplée avec le Covid, Marion Dubreuil.
Oui, c'est le cas par exemple de Thierry Casasnovas. Ce Français, sans aucune formation médicale, incite ses adeptes à ne consommer que des aliments crus. L'une de ses vidéos a généré plus d'un million de vues sur YouTube. Il est actuellement visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce qui inquiète les autorités, c'est que maintenant, ces gourous se regroupent. Ils s'échangent leurs patients, mutualisent leurs audiences. Le Covid-19 est un catalyseur. Le Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, 300 000 abonnés sur Facebook, dissuade même ses adeptes de se faire vacciner. Pour d'autres, la pandémie est un signe précurseur de l'apocalypse. C'est ce que m'a confié Jeanne, qui a quitté, il y a quelques années, une association dans le viseur de la Miviludes.
Il voit dans le coronavirus la confirmation physique que la fin du monde est imminente plus que jamais. On met en avant l'incapacité des gouvernements, et même plus que ça, la volonté des gouvernements de nuire à l'individu, et donc la nécessité impérative du repli.
Un repli d'autant plus facile avec la crise sanitaire, car les gens sont plus vulnérables, plus isolés aussi. Les stages en visioconférence et soins à distance se multiplient en ligne pour plusieurs milliers d'euros parfois. Le commissaire Éric Béraud, patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, a vu le nombre de ces enquêtes doublé l'an dernier.
Ce sont des coachs de vie, des guides spirituels, des coachs de développement personnel, des naturopathes. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux. Ce sont des enquêtes qui sont longues, compliquées à réaliser, avec des dizaines, voire des centaines d'auditions, afin véritablement de prouver l'abus de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique.
Des enquêtes d'autant plus difficiles à mener qu'il faut nécessairement le témoignage de victimes, d'anciens adeptes qui sont enfin sortis du mécanisme de l'emprise mentale.
Marion Dubreuil, merci. Pour la première bagarre mortelle de l'Essonne lundi à Saint-Chéron, 6 adolescents de 14 à 16 ans ont été mis en examen. Celui qui a reconnu avoir poignardé une collégienne de 14 ans a été placé en détention provisoire. Dans la banlieue de Lyon, un maire insulté et menacé, son véhicule caillassé. Jérémy Bréau, élu LR de Bron, y voit l'effet de son action contre l'insécurité. Il a renforcé sa police municipale. On dérange ceux qui ne respectent rien, on gêne les trafics de drogue, dit-il. 10 ans de bonus pour les vieux réacteurs nucléaires de France, mis en service dans les années 80, l'autorité de sûreté nucléaire les autorise, sous condition, à faire passer leur durée de vie de 40 à 50 ans. C'était une décision attendue, Élise Dangean.
Oui, décision qui concerne 32 réacteurs de 900 MW les plus anciens du parc nucléaire français. Ils ont été mis en service dans les années 80 pour une durée de 40 ans et vont ainsi pouvoir obtenir un sursis de 10 années supplémentaires. Alors pour ça, EDF va devoir réaliser une série de tests pour en assurer la sûreté au cours de ce qu'on appelle les visites décennales. Elles ont déjà été réalisées dans certaines centrales ou sont en cours. C'est le cas par exemple à la centrale nucléaire du Bugey près de Lyon. S'en suivront des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années pour améliorer les installations avec plusieurs objectifs, réduire les conséquences d'éventuels accidents, notamment les plus graves avec fusion du cœur du réacteur, mais aussi renforcer la protection face à des agressions type séisme, inondation ou encore canicule, peu pris en compte il y a 40 ans.
Élise Dangean, le retour du train de nuit Paris-Nice et Nice-Paris à partir du 16 avril. La SNCF a lancé ce matin la vente des billets, 19 euros pour un siège, 29 en couchette de seconde classe et 39 en couchette de première. La liaison avait été supprimée il y a un peu plus de 3 ans.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, un deuxième Français détenu en Iran et un nouveau cas de Covid chez les rugbymen français.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Outre la chercheuse Fariba Abdelka, l'Iran retient un deuxième ressortissant français, on l'a appris hier, un touriste de 35 ans, arrêté en mai dernier et détenu depuis, sans explication, Didier François.
Et oui, 9 mois déjà que ce jeune Français croupit dans une geôle iranienne, sans la moindre raison valable. Hein, Benjamin, donc c'est son prénom, avait décidé d'aller visiter en minibus les déserts du Khorasan. Vous savez, cette mythique satrapie des contacts d'Alexandre le Grand. Alors c'était un joli projet touristique. Malheureusement, cette région est également le bastion du courant conservateur en Iran, où les ayatollahs règnent sans partage et où les gardiens de la révolution ont tout pouvoir. Or justement, un agent de ces redoutables Pasdaran était alors en procès en Belgique pour avoir planifié un attentat à la bombe contre les opposants iraniens résidant en France. D'ailleurs, cet agent vient d'être condamné à 20 ans de prison par la justice belge. Et bien évidemment, les durs du régime iranien veulent obtenir sa libération à n'importe quel prix. Et c'est la seule raison pour laquelle ils ont interpellé ce jeune Français au prétexte qu'il avait à bord de son minivan une caméra GoPro, la belle affaire. Ils avaient en fait besoin d'une monnaie d'échange, un otage en fait, car ce marchandage sordide est une tradition bien établie du régime des Mollahs. Le chercheur Roland Marshall a été arrêté à Téhéran en juin 2019 et relâché en mars 2020 contre la libération d'un ingénieur iranien emprisonné en France, qui était accusé par les États-Unis de s'être procuré des composants électroniques pour le programme nucléaire. Son épouse, donc la chercheuse franco-iranienne, est toujours assignée à résidence surveillée à Téhéran, et on pense que son sort pourrait être également lié à celui de cet agent détenu en Belgique.
Ouais, Didier, il n'y a pas que des Français. Hein. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, hier, le ministre Jean-Yves Le Drian a réclamé à nouveau la libération de l'avocate et défenseur des droits humains Nasrin Sotoudeh.
Oui, alors là, on passe à un autre registre, qui est celle de la répression judiciaire en Iran. Cette avocate, elle a été condamnée à 38 ans de prison pour avoir oser faire son métier, à savoir défendre de jeunes Iraniens condamnés à mort alors qu'ils étaient mineurs, ou bien des femmes qui refusaient de porter le hijab. Donc, ce qui a été considéré par les juges des tribunaux islamistes comme une conspiration mettant en danger la sécurité de l'État. Je lis leur jugement. Alors, elle a aussi été condamnée à 148 coups de fouet pour faire bonne mesure. Malheureusement, son état de santé est très détérioré, d'où cette intervention du ministre Jean-Yves Le Drian.
Nasrin Sotoudeh, prix Sakharov décerné par le Parlement européen il y a quelques années. Merci Didier François. Les sports, avec le sort qui s'acharne sur le 15 de France, on apprend ce matin qu'un nouveau joueur a contracté le virus, que les entraînements sont suspendus et que le France-Écosse de dimanche dans le tournoi Destination est à nouveau incertain, Simon Rubin.
Exactement, les membres de la fédération que j'ai eu au téléphone ont d'ailleurs tous le même mot à la bouche, catastrophe. C'est une catastrophe. Au moment où le 15 de France pensait avoir écarté le virus, au lendemain de la reprise des entraînements, ce nouveau cas positif fait mal, hein, puisque ça veut dire que tous les joueurs sont considérés comme cas contact, toute la préparation du match contre l'Écosse est ruinée et surtout, on imagine avec peine la tenue de ce match dimanche. Alors en ce moment, réunion du comité du tournoi Destination pour trouver une solution. À la FFR, l'objectif il est maintenant clair, éviter l'annulation du match, éviter que la France soit obligée de déclarer forfait. Souvenez-vous, à l'automne dernier, les Fidji avaient été privés du tournoi d'automne à cause de plusieurs cas de Covid. Alors ici quand même, les enjeux sont différents, ils sont beaucoup plus importants économiquement notamment, d'autant que le calendrier permet de décaler la rencontre au week-end suivant, jouer ce France-Écosse le week-end du 6 mars. C'est une solution à l'étude, même s'il faut que d'ici là, la situation soit redevenue normale, ce qui n'est pas gagné.
Merci Simon Rubin. Retour enfin sur la soirée des victoires de la musique classique et la consécration d'une jeune soprano originaire de Guyane, Marie-Laure Garnier, 30 ans, désignée révélation lyrique de l'année, Angèle Châtelier.
La soprano Marie-Laure Garnier chantait Wagner hier soir aux Victoires de la musique classique. Une œuvre qui a été son premier choc musical, dit-elle, alors qu'elle vivait encore en Guyane où elle est née et où elle a ses premières amours musicales. Le tambour traditionnel guyanais dès la maternelle, puis la flûte à l'âge de 7 ans avant de goûter au piano, à l'orgue. Mais elle quitte sa terre pour Paris à 14 ans. Et c'est bien au chant que Marie-Laure Garnier se révèle à la maîtrise de Paris. Ce qui lui vaudra plus tard des dizaines de prix prestigieux avant de devenir donc la révélation lyrique de l'année aux Victoires.
Merci. Merci beaucoup. Merci à tous mes professeurs, à toutes les institutions par lesquelles je suis passée.
À 30 ans, Marie-Laure Garnier devient la première artiste lyrique issue d'outre-mer à recevoir un tel prix. La première femme noire, aussi depuis Barbara Hendricks, a remporté une victoire de la musique classique. La chanteuse a d'ailleurs dédié son prix à tous les chanteurs en herbe des territoires d'outre-mer.
Marie-Laure Garnier, retenez ce nom. Merci Angèle Châtelier. Le temps, Anissa l'a dit, plus nuageux sur le quart nord-ouest.
Oui, en particulier Patrick, sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, voilà, dans toutes ces régions, nous avons une petite perturbation peu active qui essaye de rentrer sur le pays, mais elle se retrouve confrontée à un bel anticyclone, beaucoup plus fort et plus costaud qu'elle. Du coup, la perturbation va perdre en intensité et nous aurons sur ces régions quelques petites pluies fines. Dans le sud, sur le Languedoc-Roussillon, les entrées maritimes et les nuages bas de ce matin ont du mal à se dissiper, ils persistent, le vent faiblit, mais le temps reste couvert quand même sur les Cévennes et le Languedoc. Les températures, elles baissent, mais elles restent douces. Cet après-midi, on aura 11 degrés à Cherbourg, 14 à La Rochelle et Montpellier, 17 degrés à Paris et à Nice, 20 à Clermont-Ferrand, 21 à Gap. C'est demain que ça va vraiment baisser. On va perdre 5 degrés, par exemple, à Paris.
Merci Anissa.